C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Ventus speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autre chose.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois les redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthès, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 12 juillet, il est 8h30. Au programme de cette matinale, c'est l'été et il y a de belles personnes qui viennent nous rendre visite. Nous serons dans un instant avec Patrick qui nous fait l'émission H1000 diffusée le dimanche à 16h. On sera aussi avec Elliot qui a été service civique et qui travaille maintenant dans le cinéma. On sera aussi avec Ijou qui est metteuse en scène et Léo, notre service civique, était là aussi. Ensemble, on s'est posé peinard et on a causé surtout de son. On écoute ça dans un instant. En deuxième partie d'émission, le Marvelous commence ce jeudi et je vous propose d'écouter grâce à nos amis de 48FM la conférence de presse à laquelle ils ont pu participer. Il y aura de la musique comme d'hab. Aujourd'hui, bah, je vous propose des groupes qui seront au Marvelous ce week-end et on commence par Lito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. C'est pas une surprise, hein, la sécheresse ne recule pas en France. Ce mardi 11 juillet, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé que 68% des nappes phréatiques sont toujours sous les normales. Soit une légère aggravation par rapport au mois dernier où 66% des nappes étaient dans cette situation. Depuis l'été dernier, les nappes ne se sont pas rechargées. On est toujours à 68% des nappes sous les normales de saison, a-t-il déclaré sur France Inter. Selon le ministre, si le mois de juillet était comparable à celui de l'an dernier, on pourrait aller vers des choses compliquées concernant l'eau. L'été 2022 a été hors norme, avec 700 communes privées d'eau potable. La sécheresse avait atteint des niveaux records en partie à cause d'un mois de juillet catastrophique, avec 90% de déficit hydrique. Depuis quelques jours, la température ne cesse de grimper dans l'Hexagone. Ce mardi, 9 départements sont en vigilance orange pour la canicule après un mois de juin qui a été le deuxième plus chaud jamais enregistré dans le pays. Des orages sont pourtant attendus, mais ces pluies sont en général peu, voire pas du tout efficaces pour le rechargement des nappes. Lundi, plus de 65 départements avaient des restrictions en place sur l'usage de l'eau. Niveau alerte, alerte renforcée ou crise, dont une quinzaine au niveau crise, synonyme d'une eau réservée aux usages prioritaires. Le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, chargé de la surveillance des nappes phréatiques principales réserves d'eau potable, doit publier ce mercredi après-midi les chiffres complets. J'ai hâte d'en prendre connaissance. Au fait, pas d'inquiétude, le projet aberrant des méga-bassines est toujours d'actualité. Ça baigne dans l'eau.
Instead, I told my Lord. She told me her line was better way back home. Cause she was jump on 66. 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 She got herself in a hell of a cake. She called me out by the 525. Pick me up, dad, don't want no jazz. In a sleigh with both friends cold. Now come on, baby, let's have a ball. Jump on 66. 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 She got herself in a hell of a cake. Jump on 66. Jump on
shoulder back. She hit me right in the eye.
Jump on 66. I jump on 66. I jump on 66. I jump on 66. I jump on 66. She got herself in a hell of a game.
On vient d'écouter Bernard Selam and the Boys from the Hood. Le morceau, c'est Jump 6 to 6. Ils seront au Marvelous ce jeudi à partir de 20h. On reçoit souvent des gens qu'on adore à la radio et on leur propose souvent de faire un petit jingle. Alors ils viennent, ils s'asseyent dans le studio, puis on se met à discuter en mode tranquille. En général, ils ne savent pas que l'enregistrement tourne. Tant mieux, ça permet de parler librement, tranquillement. Alors Elliot y joue, Léo était là aussi. Et il y avait également Patrick de l'émission H1000 qu'on diffuse le dimanche à 16h. On s'est posé et on discute tranquille. Ça va Patrick ?
Oui, oui, tout à fait.
Du coup, c'est reparti pour une nouvelle saison d'H1000 ?
Nouvelle saison d'H1000, beaucoup plus éclectique. Chaque année, j'ouvre les espaces sonores de l'émission à d'autres paysages sonores. Bretagne, spéléologie, interview d'une éthologue, d'une bergère. Toujours la Slovaquie, puisque mon épouse est d'origine slovaque. Mais là, quand même, petite cerise sur le gâteau, comment dire, assez, à la fois assez familial, enfin il faut écouter pour découvrir la série slovaque, et notamment avec un instrument aussi que j'ai enregistré, qui s'appelle la fujara. Et en Europe, c'est un instrument qui est méconnu. C'est un instrument qui se décline, on pourrait le décliner entre le didgeridoo et la flûte de Pan. Et c'est un instrument traditionnel qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui est méconnu en France, voilà. Enfin, en France, même en Europe, quoi. Mmh. Et c'est seuls les bergers utilisaient ça en Slovaquie pour communiquer.
Et pour communiquer, c'est-à-dire un peu comme les cornes de bru
voilà, tout à fait. Et après, oui, aussi une série en Bretagne avec aussi une petite interview. Enfin, voilà, j'essaie un peu de sortir du cadre la montagne et moi. Moi et la montagne.
C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que ton programme H1000 qu'on n'a pas cité, tu fais un peu plus parler les gens ou ça reste le même concept ?
J'essaie de faire un peu plus parler les gens, mais moi je préfère quand même, c'est plus facile, faire parler la nature que les gens.
Pourquoi c'est plus facile ?
Parce que les gens... alors déjà, il faut... Enfin, c'est pas qu'il faut préparer, mais... Oui, déjà, il faut aborder un sujet, une personne. Et puis, la personne peut avoir des a priori par rapport au micro. Un oiseau, lorsqu'il a envie de chanter, il chantera, il va s'égosiller, quoi. Alors, une personne, il faut... Moi, je trouve que pour faire une bonne interview avec une personne, il faut un peu la connaître. Il faut avoir quelques heures, voire quelques journées d'approche afin que la personne puisse se délivrer. Mais moi, le message d'H1000, il n'est pas social, il est culturel, mais c'est là, parce que j'estime que la montagne fait partie d'un patrimoine culturel tout autant que effectivement un artisan du coin, etc., etc. Mais j'ai envie de faire parler la nature parce que c'est un milieu qui est magnifique, qui est menacé. On ne va pas revenir sur la question. Et moi, j'ai pris le parti pris d'essayer de faire écouter aux personnes, aux auditeurs, la beauté de la nature à travers les sons, plutôt que d'avoir toujours ce discours qui est effectivement réaliste, mais très anxiogène, de dire la nature, c'est foutu, quoi. Et donc, je me dis, si on prend peut-être le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire, si on montre aux gens la beauté de la nature, peut-être qu'on va avoir, j'espère, certainement une autre approche, une approche plus respectueuse. Mais je pense que H1000 devrait passer à l'antenne de l'Élysée. Et tu vois, Radio Barta, c'est Radio Élysée, c'est 714 km. Mais maintenant, avec le flux d'Internet.
Attends, t'as compté, t'as fait un truc.
Ouais, à peu près, ouais.
Il y a une antenne Radio Élysée, tu penses ?
Non, mais je sais pas. Il faudrait choper. Je préfère le. Je sais même pas comment il s'appelle le ministre de l'écologie. Tu vois, c'est dingue, quoi. Alors que c'est quand même le poste peut-être beaucoup plus important que le ministère de l'économie. Bon, enfin bref. Mais il faudrait peut-être envoyer sur le mail du ministre de l'écologie quelques H1000, quelques sons que tu as réalisés aussi sur les tempêtes de neige sur le Causse Méjean. Voilà.
Alors, on y va, puisque tu es là. On a pris une espèce d'enregistrement impromptu, ce qui est génial dans la radio, ce qui nous permet de le faire. Vous dire que Léo est là. Salut, Léo.
Salut.
Et il joue. Salut,
oui,
Léo.
Oui, salut, Ben.
Et une voix que vous avez bien connue sur cette antenne. Quel plaisir de le revoir, de le voir, tout simplement. Salut, Elliot.
Salut, Ben. Oui, c'est moi qui ai demandé si ça réquait.
C'est ça quoi ?
Je ne savais pas que ça enregistrait.
Bon, écoute, dès qu'on peut lancer les enregistrements, et évidemment, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Patrick de H1000 qui est avec nous. On est parti pour une discussion et parler de. J'ai plusieurs questions dans le délire. On était parti pour faire des jingles, mais en fait, oui, au final, on va parler de création sonore, puisque Elliot, toi, ça a été ton délire ici à la radio, voilà, et qu'aujourd'hui. Est-il besoin de le rappeler, t'es rentré dans le cinéma et dans la création sonore, ce monde assez bizarre. Le monde de Patrick, en tout cas, avant de parler de ton parcours et de ce que t'as fait depuis 5 ans, finalement, ça fait 5 ans que t'as quitté la radio, tout ce que dit Patrick, ça te parle un peu quand même.
Ah oui, c'est très touchant, je trouve, j'ai l'impression que la démarche qui me touche, c'est celle de dégager l'écoute, à un moment, rendre les gens disposés à entendre quelque chose. Mais du coup, qu'est-ce que c'est entendre? C'est pas juste un signal qui se transmet dans le cerveau, c'est un truc qui se dépose un peu en toi, et de leur dire, bah, en fait, ça, ce que je suis allé enregistrer dans la montagne, machin truc, en fait, c'est à la portée de tout le monde. Comme tu disais, Patrick, c'est les meilleurs micros, c'est les oreilles et tout. Ce qui se passe juste quand on commence à enregistrer la nature, c'est qu'on se rend disponible à certaines choses. Parce que bah oui, on part marcher, on est des fois tout seul ou quoi, mais on se met dans une écoute, on se met dans un dispositif où il faut qu'on fasse avec le silence. Et en fait, c'est d'abord nos oreilles qui travaillent. C'est d'abord, on est d'abord touché par nos oreilles. Et je remarque, moi, que même maintenant, je fais des prises de son sans casque, avec micro bien sûr, mais je mets même plus le casque, presque parce que je sais à peu près comment marchent les micros et que c'est plus agréable, en fait, d'avoir juste mes oreilles.
Patrick, c'est pareil, tu mets encore un casque quand même pour te rendre compte, ou alors...
Oui, moi je mets un casque, oui, tout de même.
Mais alors, quand tu pars faire de la spéléo, là, tu disais que tu avais un épisode là, qui serait diffusé.
Oui, j'ai le casque.
Donc, tu as le casque et le recasque.
Non, j'étais parti sans casque. On part sur des grottes quand même accessibles et pas trop craignos pour le matériel. Mais ce que tu dis est très intéressant. Il m'est arrivé de faire des émissions sans le casque, en utilisant uniquement les niveaux de l'enregistreur, en disant bon, faut pas que ça sature trop, etc., etc. Mais moi, le problème que j'ai, c'est gérer en même temps. Puisqu'en fait, tout est en live, en fait. Mm-hmm. La prise de son dans la nature et la voix off que je fais en direct. En fait, ce n'est pas une voix off qui est enregistrée par-dessus. Donc, c'est pour ça que je mets le casque, pour pas que la voix soit trop en saturation par rapport au son que je veux enregistrer.
C'est un problème ça, Elliot, en cinoche, le son, il faut toujours y faire gaffe, parce que t'es obligé, quand tu prends une perche, etc., de te rendre compte entre ce que la perche... entend, est-ce que ton oreille entend? Là, t'es obligé d'avoir un casque aussi.
Ben alors, bizarrement, quand tu commences à faire de la perche, t'as pas forcément de casque. C'est-à-dire que la personne, on parle de tournage classique, fiction, la personne qui va tenir la perche est celle qui va, on va dire, faire la modulation. C'est-à-dire, avant, en gros, il fallait faire beaucoup de travail de potentiomètre parce qu'on n'avait pas d'enregistreur qui permettait d'enregistrer beaucoup de pistes séparées. On avait limite une, voire deux pistes. Alors qu'on pouvait avoir peut-être 3 ou 4 micros. Et donc, il fallait mélanger tout ça parce qu'il y a un principe électrique qui fait que si on laisse tous les micros ouverts tout le temps, en fait, tout paraît plus loin et c'est moins, c'est moins, y a moins de chaleur dans le son, c'est moins riche. Et donc la personne à la modulation a un casque, et la personne qui perche, bien souvent, n'en a pas. C'est un peu la meilleure école, c'est de se connecter. En fait, moi j'ai tendance à dire que la perche au cinéma, c'est pas du son, c'est de la danse. Parce que tu ne recherches pas à te connecter à un rendu complètement acoustique ou quoi. Ça justement, c'est peut-être plus la personne à la modulation. Mais à la perche, tu cherches à te connecter aux comédiens et aux comédiennes qui en fait sont dans le jeu, donc qui font toujours des choses un petit peu différentes. Et il faut que tu les regardes et que tu réagisses uniquement avec ton corps. Moi, je ne réagis pas avec mes oreilles, à moins que je sais s'il y a un dialogue qui va gueuler à un moment, ben, je vais aider la modulation en levant davantage la perche. Là, on dit qu'on module à la perche, c'est-à-dire qu'on écarte le micro de la source pour que ça pète moins dans les niveaux, quoi.
Ça, il faut avoir le scénar, parce que, par exemple, nous qui sommes en plateau ici, s'il y a un gros fou rire qui débarque, tu vois, je suis vraiment je vais faire ce que je peux, quoi. Mais là, t'es obligé d'avoir un peu de scénario pour te dire il faut moduler, quoi.
C'est ça, c'est de la fiction, donc tu sais toujours un petit peu plus les choses en fiction. Après, il y a aussi des outils en radio, on les utilise, des compresseurs qui te permettent justement de pas faire la pieuvre trop. Ouais. Quand il y a trop de gens qui rigolent en même temps. Et ça, c'est des choses qu'on essaie de pas utiliser en cinéma, parce que on a une logique d'enregistrer le plus flat possible pour que après ce soit traité plus tard dans une pièce prévue à cet effet, parce que souvent on enregistre en cinéma, des fois on est dehors, c'est le bordel, tu fais 8 heures d'enregistrement par jour, ton écoute elle change, t'es avec un petit casque, c'est pas fiable ce que t'as dans les oreilles. Ce qui compte, c'est est-ce que le jeu est dans la est sur la bande, est-ce que t'as enregistré ce qu'il fallait. Et bien souvent c'est moins il faut se débarrasser de la technique beaucoup, quoi.
On va parler de mise en scène avec Ijou, justement, pour le coup, juste derrière. En fait, c'est une transition un peu trouvée. Est-ce que toi, tu mets en scène, Patrick, ce qui va se passer pour toi? Est-ce que tu l'imagines d'abord, ou alors est-ce que tu te laisses aller par le rando que tu vas faire dans H1000?
Pas spécialement. Moi, je me définis plutôt comme un montagnard avant d'être un preneur de son. Donc le fait que je connaisse quand même relativement la montagne, je sais un peu à quoi m'attendre. Et je trouve, et c'est peut-être là la différence entre un scénario qui t'oblige à suivre le scénario, donc une forme de choses formatées. Moi, c'est le hasard. Je suis plus en train d'enregistrer la rencontre avec le hasard. Quand je pars en montagne en hiver, je ne sais pas, ou en été, est-ce qu'il va y avoir un oiseau? Est-ce qu'il va y avoir ça? Si, voilà. Et c'est en fonction, lorsque je marche 5-6 heures, et sur 5-6 heures, on va rencontrer du hasard. Et à partir de ce moment-là, j'ouvre l'enregistreur et j'improvise. Voilà.
Est-ce qu'il y a des moments où tu as regretté de ne pas l'avoir allumé assez tôt?
Oui, souvent, quand je me balade en montagne, c'est ce qui arrive, souvent, la meilleure prise de son, je l'ai ratée parce que je n'avais pas le matériel. Parce que, quand même, c'est lourd, c'est encombrant lorsque tu te balades 5-6. Mais il y a des rencontres assez extraordinaires. Et en fait, je me suis rendu compte de deux choses. D'une part, qu'on était tous à moitié sourds, puisque, j'en reviens, on écoute très peu avec nos oreilles. Deuxième observation, le silence n'existe pas. Enfin, quand j'entends par silence, les activités humaines perturbent où que tu sois le champ sonore que tu veux entendre. Il y a toujours un avion qui passe, une moto au loin, même dans les Pyrénées, et surtout dans les Pyrénées au niveau des avions, puisque ce sont des couloirs entre la France et l'Espagne. Et troisième observation, c'est la méconnaissance que j'ai. Une anecdote, minuit et demi, j'enregistre un truc qui ressemble à un bruit de renard, ou de je ne sais pas, quelque chose qui va me choper la main. Et en fait, c'était une chouette grand-duc. Et la chouette grand-duc, elle a un cri qui ressemble à un son très rock qui pourrait être interprété, comme un aboiement, quoi. Et moi, je savais pas que les chouettes grand-duques, ça aboyait, quoi. Voilà. Donc c'est tout ça qui est en relation, et la méconnaissance, et le fait que le monde sauvage il est présent mais qu'on l'écoute pas, et que même lorsqu'on veut l'écouter, l'entendre, il y a souvent des activités humaines qui perturbent. Alors vous mélangez tout ça, puis après l'auditeur se fait une idée sur notre positionnement d'humain face à la nature. J'arrête là.
Non, en tout cas, c'est passionnant. Il joue justement, toi, donc tu viens de sortir des études, si j'ai bien compris, ouais, de metteuse en scène. Hein.
De metteuse en scène.
Oui, évidemment. Et est-ce que tout ce, qu'on, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire vraiment le son, ça t'inspire et est-ce qu'on l'apprend en études aussi comment
ouais,
ça
ouais,
se passe
ouais, complètement. Moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler à partir du son. J'aime beaucoup travailler à partir de matières sonores documentaires. Bon, alors, beaucoup moins autour de la nature, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un texte et qu'on dise des trucs sur scène. Mais j'aime beaucoup partir de la voix des gens, de, tu vois, des toutes petites choses, des mimiques. Ça, c'est vraiment une matière que j'adore. Enfin, tu vois, la matière très orale, comme ça, très brute. Et après, le son, la création sonore au théâtre, c'est un pan que j'ai un peu ouvert à l'école, mais pas encore assez, je trouve. Mais par exemple, avec Elliot, on a travaillé là sur mon travail de fin d'études en mise en scène. Et je trouve que ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'au théâtre, tu peux vraiment travailler, avec l'espace dans lequel tu mets le son, quoi. Il y a vraiment un rapport à la diffusion du son qui est hyper riche, quoi. Et puis c'est ok, le spectateur est là, la scène se passe là, donc tout, j'ai l'impression que chaque choix que tu fais par rapport à la diffusion d'un son, bon, chaque choix du son déjà, mais chaque choix que tu fais par rapport à la diffusion, quelle source diffuse et où, surtout dans l'espace, est hyper important. Donc par exemple, ok, est-ce que je mets ma source de diffusion dans les spectateurs? Si oui, qu'est-ce que ça raconte? C'est que j'essaye d'envelopper le spectateur, donc ça veut dire que le spectateur est dans l'histoire. Si je mets une toute petite enceinte au fond de la scène à droite pour représenter une petite radio, là c'est beaucoup plus comme au cinéma, quoi, qu'on me met à distance en tant que spectateur. Enfin, j'ai l'impression que l'endroit où tu mets le son tout de suite a un sens hyper hyper fort au théâtre. Et donc là, ce qu'on avait fait avec Elliot, c'est qu'il y avait une scène, il se passait des choses sur scène, et on avait mis une assez grosse enceinte. Alors moi, je ne sais pas, à part dire grosse enceinte, je ne sais pas du tout quel type de matériel technique c'était, grosse mais enceinte. Une assez grosse enceinte dehors. Et en fait, on envoyait du son de... À la base, c'était quoi? Vas-y, raconte l'histoire du son, parce qu'en vrai, c'est...
Il fallait qu'il se passe quelque chose. En fait, il y avait les personnages au plateau qui devaient réagir à quelque chose qui se passait dans les couloirs et qui...
Oui, non, mais je voulais dire toi quand t'as enregistré... Parce que c'est toi qui as enregistré le son qu'on diffusait.
En gros, un jour, je me baladais à Bruxelles justement avec des bons micros. Et vu que j'étais à l'école, je les taxais souvent parce que moi, j'ai pas de matos perso. Et je me balade et j'entends des bruits. Mais j'étais en pleine ville. Hein. J'entends des cris. Il y a vraiment des cris, mais synchronisés, c'est-à-dire des oui ou des non, mais vraiment synchronisés de 20, plus de 20 personnes. Je me dis, c'est quoi, il y a une manif et tout, mais j'entends pas de musique, j'entends pas de paroles un petit peu déconstruites autour, comme une foule ferait quand elle attend un truc, j'entends pas de casserole ou quoi. Et donc je marche et tout, et là je vois une scène visuelle de dingue, où il y a un type, trois personnes plutôt, un type et deux meufs debout et 50 personnes à genoux avec les mains derrière la nuque, tu vois, comme une scène d'arrestation. Sauf que tous ces gens-là étaient habillés avec des sacs poubelles, un peu dégueulasses et tout, et ils étaient très jeunes. Et donc on est en Belgique et donc je comprends que c'est un bizutage. Sauf que, en fait, que au son, ça donne des trucs hyper effrayants parce que t'as vraiment des gens qui gueulent de toute leur cage. Des choses, c'est juste des rapports d'autorité qui sont criés. Et du coup, je sais qu'il fallait faire, pour la pièce d'Ijou, un truc qui fasse un peu peur et qui fasse monter la sauce parce qu'il y avait des gens qui allaient rentrer dans le bâtiment et tout. Et du coup, j'ai bêtement mis des portes qui claquent en plus de ces sons que j'avais chopés dehors de gueulantes. Et en fait, ça marchait super bien, notamment, je pense, parce que acoustiquement, on l'a mis dans une pièce qui est pleine de carrelage, mais je te laisse expliquer.
Oui, voilà, et du coup, donc il y avait la scène qui se passait, et donc c'était sur un plateau télé, et en fait, il y avait une manifestation qui se passait à l'extérieur du plateau télé, c'était ça, grosso modo, l'histoire, quoi. Et donc, les sons venaient de l'extérieur, et le simple fait de les mettre dans le couloir de l'école faisait que c'était... Enfin, c'était très réel. Moi, des fois, je m'y suis fait prendre ok, t'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de monter, quoi. Mmh. Enfin, voilà.
Ah, c'est génial. Hein. La spatialisation du son, ça te parle aussi.
Oui, mais là, ça m'interpelle parce que je parlais tout à l'heure du hasard et c'est ça, quoi. Provoquer le hasard, quoi. C'est à un moment donné, dans ta vie, dans ta balade, il y a un truc qui arrive à tes oreilles et là, tu es là au bon moment. Voilà.
Oui, je suis d'accord. Ouais. Je pense que c'est ça le field recording au final.
Ouais, au final, c'est ça. La définition du field recording, c'est ça. Ouais. C'est vraiment prendre le son sur le champ de manière brute sans le retrafiquer.
Léo, tu es avec nous depuis deux mois. Deux mois, ouais, ça doit être ça. Et qu'est-ce qui te fait le plus peur, si tant est que t'en es, dans la prise de son, en fait, quand tu pars en reportage
La prise de son me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est de me dire que je regarde pas, en fait. Souvent, je pars sans casque, parce que j'ai pas un casque. Les gros casques, là, qu'on a au studio, ils sont trop gros pour se balader avec. C'est beaucoup trop géant. Et j'ai pas de petit casque sympa, tranquille, du coup je fais un peu à l'œil, du coup maintenant ça va beaucoup mieux qu'au début, mais j'ai quand même tendance à les gens qui parlent un peu loin, et moi d'un coup je rapproche mon micro trop près, et du coup ça sature. Ça c'est pas une peur en soi, je me débrouille avec. Moi ma peur elle est pas à la prise de son, elle est au contact plus avec les gens, aller au contact des gens, ça c'est autre chose.
Ça, toi, Hachmil, c'est fou, c'est fou, comme je t'assimile à quelque chose.
Quoi,
ah bah oui, tu m'étonnes, surtout.
Oui, ça me parle, c'est vrai que c'est pas facile d'aller au contact des gens. Hein. Mais en même temps, c'est un sacré challenge. Quoi.
Ouais, mais c'est surtout que on me cantonne beaucoup au rôle d'aller voir les artistes à la radio. Et il y a des milieux que je connais très bien où j'ai pas de soucis avec l'argent. Le milieu du théâtre, je connais très bien le théâtre, j'en ai fait des études. Pareil pour le cinéma. Mais si on parle de musique, je suis pas un grand écouteur de musique, je connais pas énormément la musique. Et aller voir un musicien, je sais pas de quoi lui parler en fait. Parce que j'ai pas les mots, j'ai pas la sémantique, j'ai pas les codes. Donc ça aide pas.
Elliot, toi, tu as été service civique ici en 2017, du coup, avant que j'arrive, c'est fou, ça commence à remonter, je suis en train de me mettre un coup de vieux tout seul, et à toi aussi d'ailleurs, j'imagine.
Ouais,
ça va. Justement, quel conseil tu pourrais lui donner par rapport au reportage et au travail que toi, tu as fait ici, si tant est qu'il y en ait.
Ouais, oui, si tant est qu'il y en ait, parce que je pense qu'on travaille tous différemment, mais je sais pas, je dirais que c'est de mettre le plaisir au centre. Si on imagine que si on a envie de poser une question, elle est forcément bonne. Je me dis, c'est pas une mauvaise piste au début. Après, oui, il y a des choses qui marchent pas, et puis on peut commencer à piger. Je sais pas, je me rends compte. Au début, moi, je bossais. Je demandais beaucoup aux gens, bon, alors on est où là? Et effectivement, c'est chouette parce que des fois, il y en a qui parlent bien et qui te disent, bon, mais là, on est sur le Bougès, en face de ça, il y a ça, ça, ça. Mais je me suis bien rendu compte que au bout d'un moment, en fait, les gens ils connaissent, donc tu dis Bougès, ça suffit, pas besoin de faire une description topographique. Mais moi j'adorais ça parce que je débarquais dans le coin. Mais voilà, au bout d'un moment tu commences à comprendre ce qui marche moins. Mais je dirais ça, oui, se prendre du plaisir.
Et pareil, Patrick, pour le coup, dans la création sonore, t'as pas besoin toujours de dire et de décrire tout ce que tu vois, en fait. C'est ça le but.
Ouais, le but, et c'est l'exercice le plus difficile. C'est comment raconter une histoire pratiquement qu'avec du son. Alors, il m'arrivait, j'ai fait des émissions ici où il y a 30 minutes que du son et c'est la musique qui vient donner l'émotion ou qui vient... illustrer une forme d'histoire. Et ça, c'est l'exercice le plus difficile, mais je crois que c'est la meilleure manière, si on veut réaliser purement de la création sonore, d'aborder le sujet. C'est-à-dire, mettez-vous à la place d'un auditeur qui entendrait des sons divers, ça peut être des sons de ville, de nature, ou je sais c'est trop quoi, mais comment faire passer une histoire? Ça doit évoluer, il doit y avoir un point A, B, C. Voilà. Donc voilà, mais après sur les interviews, moi, ma technique, elle est très simple. Des fois, je cours après un randonneur, je vois, oui, bonjour, c'est pour la radio. Les mecs me disent, c'est pour l'image. Non, c'est pour la radio. Quelle radio? Alors, de suite, c'est quelle radio? Comme si c'était péjoratif de dire, c'est pour Radio Bartas. Si tu dis c'est pour Radio Bartas, le mec, il se barre en courant.
Alors, normalement, non.
Non, mais quand tu... Non. Par contre, si tu dis, ah, c'est pour une, comment dire, je dis souvent, ah, c'est pour plusieurs, c'est pour un réseau de radio en France. Et là, tout à coup, tac. Pourquoi je dis cette anecdote ? Parce que aujourd'hui, je pense que les choses sont aussi déformées de par les réseaux sociaux qui, chacun de nous, a besoin ou veut se starifier, ou en fait, on crée ce besoin de starification. Où en fait, ben voilà, je suis là, je prends ma photo, alors là on est loin du son, je suis là. Ah non, mais si toi t'es Radio Bartas, je ne veux pas parler. Ah par contre, si je suis en réseau de radio en France, ah ben oui, je vais parler. Donc c'est quand même très curieux cette chose-là, cette tendance que nous avons à consommer, quoi. Et je dis bien consommer parce que par rapport à la nature, je trouve, alors là on s'écarte un peu du sujet, mais je trouve qu'aussi... le surtourisme, la consommation qui consisterait à dire voilà, faut faire le Vignemale, faut faire le Mont Blanc, faut aller visiter les grands sites des Pyrénées, c'est quoi le sens derrière ? Donc, je te passe la parole. Donc, je pense que la radio est aussi porteur de messages qui doit faire sens.
Ah oui, tu as eu des réponses différentes selon, selon ce que tu disais sur pour quelle radio c'était.
Ah oui, oui, genre non, je ne veux pas parler, ça ne m'intéresse pas, etc., etc. Et dès que tu dis c'est pour un réseau de radio en France, ah oui, d'accord. Et puis là, tu pars à un impro, je dis bon, alors la journée est belle, oui, ça commence comme ça. Es-tu sensible au son ? Les mecs, ils... alors le mec un peu lambda qui court très vite en montagne, non, pas trop. Et puis finalement, oh, mais si, voilà, c'est ça.
Ouais, parce que les gens ont peur d'être entendus pour des propos qui.
Oui, ils peut-être.
Ont peur de pas être
intéressants,
quoi.
Ouais, ouais.
Ou d'être déformés, parce que nous, on a déjà eu le cas pour parler de notre expérience ici à Bartas, des paysans qui ont dit on veut écouter ce que vous allez diffuser avant que vous le diffusiez, en fait. Parce qu'ils ont été pris par
défaut,
d'autres médias. Hein. C'est-à-dire, je parle pas que des radios associatives, mais ça parle évidemment. On donne un espace de liberté. Cet espace de liberté peut être exploité d'une mauvaise manière par plein de gens, et les médias en font parfois leur chou gras. Voilà, je vous ai bien eu, je pense.
Oui, tout à fait. Ouais. Complet. Parce que
écoutez,
il est long le jingle. Il est...
oui, à la base, on devait
évidemment, évidemment, on rentrait dans le truc. Et je vous remercie tous les quatre. Ce qui ne nous empêche pas, dans deux secondes, on va faire un petit jingle histoire de se marrer. Mais en tout cas, je remercie tous les quatre de vous être prêtés au jeu
merci
de l'interview.
Merci à toi.
C'est que du bonheur. Et bon. Patrick, de toute façon, ta saison, elle redémarre à partir du 1er octobre sur notre antenne.
Oui.
Tu es reparti pour 36 épisodes, je crois.
Oui, 36, cette année 37. Parce que, ah oui, l'année prochaine, la 37e, ça sera sur les retraites. Parce que tout le monde aura oublié le passage des retraites, puisqu'on sera en plein Jeux olympiques. Tu comprends, les Jeux olympiques, c'est plus important que...
Ah bah évidemment, que nos retraites.
Que nos retraites, oui. Voilà. Et donc, ça sera une piqûre de rappel. J'aime aussi faire un peu en décalé, parce que je trouve que l'information va trop vite, une information en chasse une autre, donc là on se rappellera, tout comme peut-être que dans quelques années on se rappellera que dans les Pyrénées il y avait de la neige à 1500 ou 2000 mètres en janvier, et que dans les futures années il n'y en aura plus, quoi. Ouais.
Elliot, tu sais que tu es à la maison ici, hein, donc tu reviens quand tu veux.
Merci Ben.
Et de parler de quoi tu veux, en fait.
Bah oui, avec plaisir. Là, ouais. Je vois que l'antenne est libre.
Il joue, écoute, dès que tu as ta première mise en scène officielle,
ouais.
Voilà. Et puis Léo, bah, nous, on te retrouve quasiment toutes les semaines, au moins une fois, même deux.
Même deux, en général.
Voire même trois.
Ça dépend.
Jusqu'au mois de...
Décembre.
T'arrêtes en décembre.
Novembre-décembre,
Ouais. Tu trashes qu'en janvier, février ?
Mars, avril, juin.
Ouais.
On donne pas l'année.
Ouais, carrément, Léo, c'est toujours un plaisir. Merci à tous les quatre. Et voilà pour ce moment impromptu, ça fait bien plaisir. Allez, dans un instant, on part à Marvejols pour écouter Karim du festival Le Marvelous qui commence jeudi. C'est Ludo de 48FM qui l'a rencontré. On écoute d'abord Dynamic Checkers, I Can't Wait For You, qui seront ce samedi à 22h45 au festival.
He does. Alors Karim, on est ensemble pour parler de cette 7e édition du Marvelous Pop Festival qui se tient les 13, 14 et 15 juillet. Sur les années 50, 60, 70, on reste sur le même principe que les années précédentes ?
Exactement. Donc cette année encore, les festivals remettent le couvert pour un festival 100% vintage. Les dates, comme tu les as dit, 13, 14 et 15 juillet, partout dans Marvejol, en journée comme en soirée. On reste bien sûr sur une thématique vintage avec un format qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves. Et on vous attend nombreux avec le sourire et la bonne humeur.
Voilà, toujours un festival familial, entièrement gratuit.
Exactement, un festival familial, ultra familial, puisque c'est un festival qui se veut à la fois intergénérationnel et pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous pouvez venir en famille, avec parents, amis, enfants, grands-parents, et puis tout le monde trouvera son intérêt, puisque la spécificité du Marvelous, c'est de proposer tout un tas d'animations, de performances, de spectacles pour toute la famille. C'est-à-dire qu'il y a des arts de rue, du théâtre, du cinéma, des concerts, des projections, des arts visuels, des performances, des conférences, des rassemblements automoto. Donc vous voyez, tout le monde peut y trouver son compte.
On fait un clin d'œil cette année au semi-marathon Marvejolmonde ?
Exactement. Donc on va dire que la sous-thématique cette année, c'est que les formicables se mettent au sport. Et on part vraiment sur une dimension sport. C'est une façon pour nous de faire un clin d'œil au semi-marathon, au fameux semi-marathon du Marvejolmonde qui fête cette année ses 50 ans.
L'ouverture, le jeudi soir, donc on va projeter un film et on va poursuivre en musique, c'est ça ?
Exactement. Donc le jeudi soir, soirée d'ouverture. Donc on attaque l'ouverture sur la place Cordès à partir de 18h30. Donc bien sûr avec une soirée concert qui se suivra avec une projection sur la place Giroux avec le film qui s'appelle Le vélo de Ghislaine Lambert. Et ensuite, on termine avec un set DJ de nouveau sur la place Cordès à Marvejol.
Voilà, et ensuite, dès le vendredi, le samedi, c'est dans toute la ville qu'on va pouvoir retrouver en journée les spectacles d'art de rue.
Exactement. Donc quand je dis que les formicales prennent possession de toute la ville, c'est vraiment de toute la ville, de l'Esplanade jusqu'à la place de l'Église. Tout au long de la ville, vous verrez, il y aura tout un fil conducteur avec des spectacles, des performances, des installations. Et l'idée, c'est que vous veniez sur un ou deux jours, vous avez la possibilité de voir tous les spectacles. Tous les spectacles seront joués deux fois, une fois, à raison d'une fois par jour si on veut. Et l'idée, c'est de pouvoir venir prendre le temps de profiter à la fois des performances, des arts de rue qui seront proposés, des spectacles, tout en ayant la chance de pouvoir tout voir.
Il y a des petits plus, il y a une course de vélo cette année, il y a un marché, on retrouve quoi ?
Alors, effectivement, donc l'idée, c'est qu'on garde toujours ce qui fonctionne, donc les performances principales, le pique-nique, la plage, la brocante, les concentrations auto, le rétro-camping, l'atelier coiffure, la friperie, tout ça qui sont des incontournables et qui restent. Mais l'idée, c'est de se renouveler. Et cette année, notamment, l'année passée, on a eu proposé un concours de mimosa qui revient d'ailleurs, qui a super bien fonctionné. Et on vous invite à venir présenter vos talents de cuisinier, si vous le souhaitez. Et cette année, on a décidé de mettre en place une petite course décalée, une petite course non pas de vitesse, mais à vélo, justement, une course qui prendra place dans toute la ville.
Le soir, les concerts, on reste sur de la soul, du rock, c'est toujours ce même esprit festif ?
Exactement, on reste sur une soul, sur du rock garage, sur un ton musical qui reste toujours très accessible au plus grand nombre et qui se veut très éclectique et à la fois très fédérateur, c'est-à-dire vraiment pour tout le monde. Voilà.
Alors également des conférences, rassemblements auto, camping rétro, on garde les mêmes ingrédients. Hein.
Exactement, on maintient ce qui fonctionne, ce qui plaît et ce qui nous plaît surtout. Voilà. L'idée, c'est de prendre plaisir à organiser, prendre plaisir à présenter et que vous y preniez du plaisir.
Voilà, pour la musique, vous pourrez retrouver l'émission sur le site internet de 48FM où on pourra réécouter tous les groupes, 48FM.org. Pour retrouver le programme, on peut se le procurer où ?
Vous pouvez vous le retrouver donc, bien sûr dans toutes les gazettes qui sont distribuées dans tous les commerçants, dans les offices de tourisme, mais aussi en ligne bien sûr, à la fois sur le site internet des Formicables et sur Calameo.
Merci bien.
Avec grand plaisir. Merci à vous et au 13, 14 et 15 juillet.
Et voilà, merci beaucoup Ludo de 48FM. On fera un plateau ensemble ce vendredi en direct du festival à partir de 11h. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi avec Richard Scherer. Richard est délégué territorial pour le Parc national des Cévennes. On parlera de la tête dans les étoiles. Ce sera un événement qui se passera le 21 juillet sur le Causse. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Passez une excellente fin de semaine et un long week-end si vous avez la chance d'être en week-end. Et pourquoi pas de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Nous, on se retrouve lundi en forme et avec le sourire. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À lundi, ciao. More
days.